Ésaïe 38. Ésaïe chapitre 38, verset 1er à 22. Nous allons faire cette lecture ensemble. Ésaïe chapitre 38, verset 1er à 22. À la gloire de notre Dieu. Merci, frère Bernard. Une longue lecture qui vaut la peine d'être faite. Lisons ensemble. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville, et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz, et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi. Comme une tente de berger, je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin comme un lion. Il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'allégresse, secoue-moi. Que dirai-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Voici, mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la force du néant, car tu as jeté derrière moi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie à la maison de l'Éternel. Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère. Et Ézéchias vivra. Et Ézéchias avait dit, à quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel? D'Éternel bénir sa parole, frères et sœurs. Veuillez vous rasseoir. Dans le cadre du thème de l'année, le thème que nous lisons de la façon suivante, une année sous le regard du Dieu Tout-Puissant et trois fois saint, nous avons commencé à prêcher sur ce sujet qui dit « Vous êtes sous le regard de Dieu ». J'ai débuté la série au mois de janvier, je crois, et nous avons entendu un vibrant message sur ce sujet avec le pasteur Evans Etienne. J'avais regardé le psaume 139, versets 1 à 16 autour, d'où le thème est tiré. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ce même sujet, toujours dans le cadre du même thème, une année sous le regard du Dieu Tout-Puissant, ce sujet qui dit « Vous êtes sous le regard de Dieu ». Au verset premier du texte que nous venons de lire, la parole de Dieu nous apprend qu'Ézéchias était malade. On sait qu'il souffrait d'ulcères à la faveur du verset 21. Et on sait également qu'il était un malade en phase terminale, puisque le texte dit qu'il fut malade à la mort. Le même texte poursuit en disant au verset premier, le prophète Ésaïe vint à Ézéchias et lui dit, l'Éternel vous fait dire, donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Parce que tu ne vivras plus. En d'autres termes, vous avez une maladie mortelle à moins qu'il y ait une intervention surnaturelle dans votre vie ou bien dans votre maladie, vous allez mourir. Je ne sais pas quelle réaction est-ce que j'aurais devant cette situation si j'étais à la place d'Ézéchias. Vous non plus peut-être, vous ne savez pas quelle réaction est-ce que vous auriez? On sait que la plupart des hommes ont ce qu'on appelle un instinct de conservation. Mais la Bible nous dit quelle a été la réaction d'Ézéchias. C'est une histoire très connue d'ailleurs. Au verset 2 et 3, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Entendons par devant ta face, sous ton regard ou bien en ta présence. avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux sentant sous ton regard. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. On peut le comprendre, il n'a que 39 ans, il est roi. Mourir pas facile, pas vrai pour lui. Ou qu'a prié comme ça, oui, il a un problème. Ou qu'a dit, Seigneur, songez qui Jean me servit avec intégrité et avec fidélité. Ah, remarquez que il n'a pas demandé, bon Dieu, rien ici. Hein? Par contre, si vous remarquez ça dans le verset, il n'a pas dit, bon Dieu, pas quitter mourir. Mais entre Dieu et son serviteur, on se comprend, ça va? Parce que normalement, même un soupir éclair Ézéchias te ka fait, bon Dieu t'a comprendre. D'ailleurs, moi t'ai expliqué, non, je vous avais expliqué la semaine des les fois passées où j'ai prêché, que avant même d'aller auprès de Dieu dans la prière, il sait de quoi avons-nous besoin. Vous vous rappelez? Il n'a rien demandé à Dieu explicitement. Il l'a fait. Sa prière implique qu'il a plaidé sa cause devant Dieu. Mais il n'a pas fait référence dans sa plaidoirie, dans sa prière, aux nouvelles ou à la maladie. Vous pouvez prier comme ça. Dans sa détresse, il a prié. Il aurait pu se plaindre, mais il a préféré prier. Il a cherché la face de Dieu. Bien sûr, le texte nous dit qu'il a versé, pas des larmes, mais d'abondantes larmes. Ce qui est normal dans les circonstances. Mais il a profité pour soumettre à l'attention de Dieu son bilan spirituel, son palmarès spirituel. Ou bien sa feuille de route spirituelle. Une feuille de route spirituelle, un bilan qui était jusque-là appréciable par la grâce de Dieu, cela ne vient pas de lui. C'est Dieu qui lui a fait grâce d'avoir été fidèle, d'avoir été intègre à Dieu. Mais qu'à cela ne tienne, il s'en sert pour plaider sa cause devant Dieu. Pour comprendre de quoi Ézéchias parle quand il dit à Dieu, « Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. » Il faut regarder ce qui est écrit de lui dans 2 Rois 18, versets 3 à 6. On a regardé 2 Rois 18, versets 3 à 6 pour voir où est-ce que l'Écriture fait état de l'intégrité de cet homme, de sa fidélité. Dans 2 Rois 18, versets 3 à 6, il est écrit d'Ézéchias qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, il brisa les statues. Nous songez, bon Dieu, goumé à Israël pour défaite statue, nous songez. Il abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel et le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Le texte dit au verset 6, il fut attaché à l'Éternel. Et la parole de Dieu ne brosse pas ce portrait d'Ézéchias pour le flatter, pour flatter son ego. Parce que lorsque les autres rois, yo prend chemin crochu, le Saint-Esprit de Dieu est allé direction que yo prend en détail. Il ne se détourna point de Dieu. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Voilà l'homme qui vient dire à Dieu maintenant, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Je ne crois pas que c'est pour se bomber le torse. Il fait ça pour rappeler à Dieu qu'il est son enfant bien-aimé. Je crois que Ézéchias a fait la bonne chose. Il fait face à l'impossible. Il fait face à l'impossible, frères et sœurs, et il invoque celui pour qui rien n'est impossible. C'est pas ça que tu as fait, toi? Il fit face à l'impossible. Il est devant une impasse. Il appelle celui qui est capable de frayer un chemin devant lui. Quand vous êtes en désespoir de cause sur le chemin de la vie, frères et sœurs, ce n'est pas ce que vous faites, vous. Amen. Ou du moins, c'est ce que je vous encourage à continuer à faire. Amen. Il y a toujours une infinité d'options. Il y a toujours plusieurs options devant vous, devant moi, quand nous faisons face à l'impasse. Mais la seule option qui compte, c'est de s'agenouiller devant Dieu et de plaider notre cause à genoux. Amen. Et Dieu répond à la prière de son serviteur, versets 4 à 5. Ah, verset 4 à 5, Dieu répond. Il dit, voyez-vous, je vous ai dit que Dieu a compris. Qu'est-ce qu'il voulait dire à Dieu que j'ai marché devant ta face dans la fidélité et dans l'intégrité? Dieu a compris ce qu'il voulait dire. Et Dieu dit à Ésaïe, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David, ton Père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. En d'autres termes, je vais vous guérir de cette maladie. Quel est celui qui peut accorder le prolongement de la vie au Fils des hommes, si ce n'est celui qui connaît chacun dès avant sa conception dans le sein maternel. Dans le récit parallèle de Deux Rois, chapitre 20, les versets 1 à 11, l'oratoire, nous lisons au verset 8 qu'Ézéchias demande à Dieu de lui donner un signe qui lui confirme que Dieu va effectivement tenir sa promesse envers lui. Ésaïe, chapitre 38, le verset 22 donne une partie de la chose, un aperçu. Mais le texte parallèle donne tous les détails. Il a demandé à Dieu, c'est lui qui a demandé à Dieu une preuve, un peu comme Gédéon l'avait fait, nous songez, quand Dieu l'a appelé pour aller délivrer Israël de des Madianites. Il a demandé à Dieu une confirmation à l'effet que Dieu va tenir sa parole envers lui. Dieu aurait pu ne pas lui donner la confirmation et même l'abandonner. Pas vrai, frère et sœur? Mais on connaît, Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il n'a pas fait ça, non? Il va y prouver la vraie, oui. Je te dis que je vais te guérir. Tu me demandes une preuve que je vais te guérir vraiment. Bon, ok, laisse faire. Pourquoi pas t'as dit ça tout ce week-end? Mais Dieu est un Dieu de grâce. Il compatit à sa faiblesse. Ça va? Dieu dit, ok, tu me demandes une preuve. Je la garantis que je vais le faire. D'accord. Et Dieu dit au verset 8. Ok, voici le signe que je vais faire ce que j'ai dit que je vais te guérir. Verset 8, je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz, et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Ça va? Ah, frères et sœurs, c'est parti, mon Dieu, nous avons servi là. Nous savons que le professeur science dans la salle là, d'après les lois de la physique, c'est la Terre qui tourne, pas vrai? Ça ne veut pas dire que le soleil est fixe, non? Il gagne l'heure pour le faire, pour le bouger par rapport aux étoiles. Et ça se fait sur une période très longue. Nous savons que c'est une illusion lorsque nous pensons que le soleil bouge quand il se lève de l'est en ouest, pas vrai? C'est une illusion, mais à mesure que nous commençons à grandir, nous avons étudié, nous connaissons que c'est une illusion, ce n'est pas vrai. C'est l'effet de la rotation de la Terre qui nous donne ce phénomène de la Terre, de soleil qui passait de l'astre au crépuscule, pas vrai? Ah, mais bon, ici, bon Dieu fait que le soleil l'a déplacé de quelques cran. Voilà. Vous comprenez ça? Mais oui. Et je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue. Théologiens ont fait un paquet de problèmes avec ça. Ils ont tellement de connaissances. Il y a des hypothèses à gauche et à droite. Ils ont essayé d'expliquer scientifiquement ce qui passe là. Yo instruit passé nous ni moi ni où, mais c'est pas ta nécessaire de faire toute bagaille ça yo. Dieu a dit qu'il va reculer l'ombre des degrés. Lorsqu'il parle des degrés, il parle du cadran d'Akas. Apparemment, il s'agissait d'un cadran solaire qui servait à mesurer le temps, apparemment. Et Akas, papa Ézéchias te gen ça la caille, tant que toute grand nèg, tant que toute roi te gen ça à l'époque. Et lorsque phénomène ça produit, l'homme blanc, parce que le soleil a couché à l'ouest, donc il y a tendance à projeter une ombre qui est développée sous objet, apparemment un cadran solaire, et ça produit, ça permet que yo mesure le temps, yo gagne des informations sur l'heure du jour. Il y en a qui pensent qu'il y avait 12 cadrans, on ne sait pas en réalité, 12 degrés, pardon, on ne sait pas en réalité combien il y avait de degrés. Et quand Dieu dit qu'il va faire reculer l'ombre de 10 degrés sur le cadran d'Akaz, ce n'est pas sous cadran que Dieu va agir sur le soleil qui projette cette ombre sur les degrés. Ça va, frères et sœurs? Nous ne savons pas comment cela est-il possible. Mais nous savons que Dieu est capable de le faire. D'après les lois de la physique, c'est la Terre qui est en mouvement. Mais Dieu vient ici défier les lois physiques pour le dire à Ézéchias que le cas défier les lois biologiques. Ça va? Si je peux agir sur le soleil, faire que le soleil a un comportement que normalement, que naturellement, il ne peut pas avoir, alors ton corps, j'ai le contrôle de ton corps également. Le miracle s'est produit, et parce que c'est un miracle, c'est un phénomène surnaturel. Le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a créé les lois de l'univers, il a la capacité de transcender les lois de l'univers, les lois qu'il a créées, frères et sœurs. Au commande de ça, ça s'annonce. Pourquoi nous avons besoin de ça? Pour qui sont besoin de ça? Avant de commencer à prêcher. Nous avons besoin de ça pour capable de connaître que c'est pour où avec une situation qui est impossible. Il n'est pas impossible pour bon Dieu. Et pendant que nous avons fait le soleil bouger, en rien pas impossible pour monde ça. Si Dieu a créé l'existence par sa parole, ce n'est pas un problème pour mon Dieu. Ce n'est pas un problème pour Dieu d'agir dans l'existence par l'existence et à travers l'existence. Parce que c'est lui qui fait existence là. Si c'est bon Dieu qui fait petit tout, qui fait famille, qui fait cœur, lui qui a changé tout, chaque fois le besoin de changer. Dieu n'est pas soumis aux lois de l'univers. Dieu n'est pas soumis aux lois de la science. Dieu transcende les lois de ton corps, les lois de ta pensée, de ton cerveau. Dieu transcende les lois sociales. Dieu transcende les lois intellectuelles. Dieu transcende toutes sortes de lois quand il veut les transcender. Cela nous appelle à la confiance, frères et sœurs. Et après ceci, le texte parallèle nous montre que ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, joint à la parole de Dieu, pour que Ézéchias les joigne guérison. Et moi, j'aimerais regarder avec vous certaines choses qui se passent à la lumière de ce passage. J'aimerais regarder avec vous certaines choses qui se passent quand on est sous le regard de Dieu. On est d'accord avec nous pour nous faire voyager ensemble? Nous allons regarder certaines choses qui se passent quand on est sous le regard de Dieu avec ce texte-là. La première chose qui se passe quand on est sous le regard de Dieu, frères et sœurs, c'est que Dieu prend plaisir à jeter derrière lui tous nos péchés. C'est pas une bonne nouvelle? Quand on est sous le regard de Dieu, Dieu jette derrière lui tous nos péchés. Ézéchias a vu cette vérité. Il l'a expérimentée et il l'a exprimée au verset 17c. Tu as jeté derrière toi, dit Ézéchias, au verset 17c, tout mes péchés. Ce qui veut dire que Ézéchias a expérimenté le pardon de Dieu. Il a expérimenté le pardon de Dieu pas pour un péché, mais pour l'ensemble de ses péchés. Parce qu'il dit, tu as jeté derrière moi tous mes péchés. Waouh! Ézéchias savait qu'il méritait le jugement de Dieu. Il savait que malgré le palmarès brillant et que, dont j'ai parlé tout à l'heure, que lui-même a évoqué, il savait qu'il méritait la mort car le salaire du péché, c'est la mort. Toutefois, frères et sœurs, Ézéchias comprit que Dieu avait complètement pardonné tous ses péchés. Et quand il parle de tous ses péchés, il parle de ses péchés passés, il parle de ses péchés présents et il parle de ses péchés futurs. Hein, dis-moi que quand moi là, faut reculer, une bonne chance pour moi. OK. Hein, frères et sœurs, comment un Dieu juste peut-il pardonner les péchés passés, présents et futurs de cet homme pécheur? Eh bien, Dieu a pu le faire par rapport au fait que 700 ans plus tard, le Fils de Dieu est venu mourir sur la croix, portant sur son dos pur et sans tache, non seulement l'ensemble des péchés d'Ézéchias, mais également l'ensemble des péchés de tous ceux qui sont assis ici en ce moment même. Ainsi, frères et sœurs, dès le moment où Ézéchias s'est repenti de ses péchés et a mis sa confiance en Dieu, eh bien, tous ses péchés ont été complètement jugés et pardonnés à la croix en raison de ce que Jésus a fait. Laissez-moi vous dire que c'est la même chose qui s'est passée pour vous et moi aujourd'hui. tandis que nous sommes sous le regard de Dieu. Dès le jour où nous avons placé notre confiance en Jésus comme étant notre sauveur personnel et notre rédempteur, tous nos péchés sont jugés et punis à la croix par ce que Jésus a fait il y a bientôt 2020 ans. Ça va, frères et sœurs? En Christ, nous sommes complètement pardonnés. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs ne tiennent plus dans la présence de Dieu contre nous, frères et sœurs. Amen. La meilleure nouvelle qu'un homme ou une femme puisse recevoir de sa vie, ce n'est pas qu'il va se marier, ce n'est pas qu'il a trouvé un copain ou une copine, ce n'est pas qu'il a gagné à la loterie, c'est plutôt que ses péchés sont pardonnés. Ainsi, frères et sœurs, de même qu'Ézéchias s'est réjoui dans cette prière, poème, que Dieu ait jeté tous ses péchés derrière lui, il jubile, il rend gloire à Dieu. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, nous réjouir ce matin sous le regard du Dieu Tout-Puissant et trois fois saint qui a su pardonner l'ensemble de nos péchés. Et non seulement il les a pardonnés, mais il les a jetés loin, derrière son dos. Derrière lui. Cela est vrai parce que Dieu dit dans sa parole, dans Ésaïe chapitre 43, le verset 25, c'est moi, dit Dieu, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Pour sa part, le psalmiste nous dit dans le psaume 103, le verset 2, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, nous avons toujours l'idée de jeter mes péchés loin derrière ton dos, derrière toi. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ou qu'à raison, mes péchés sont pardonnés, frère. Ou qu'à un problème, ou qu'à un problème dans la famille, ou dans le ministère, ou mes péchés sont pardonnés, frère. Ou qu'à un problème dans la finance, ou qu'à perdre des êtres chers, mes péchés sont pardonnés. Alors, réjouissez-vous dans la présence de Dieu. La deuxième chose que nous voyons dans ce texte qui se passe lorsque nous sommes sous le regard de Dieu, frères et sœurs, c'est que nous jouissons des bontés de Dieu d'une façon spéciale. Est-ce que l'Église attendait ça, moi, dit là? Lorsque nous sommes sous le regard de Dieu, la deuxième chose qui se passe, c'est que nous jouissons des bontés de Dieu d'une façon spéciale. Voilà pour qui ça, pasteur, a ajouté d'une façon spéciale. Pourquoi il n'a pas dit au cours que nous jouissons des bontés de Dieu? Bon, tout doux, ça vite. C'est parce que tout le monde à la face de la terre jouit des présents des bontés de Dieu. Ça va? Mais nous-mêmes, nous jouissons non seulement par rapport à tout le monde, mais nous jouissons d'une façon spéciale. Ah, Ézéchias a vu que Dieu est bon pour lui d'une façon spéciale. Au verset 16, il dit, « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de là. » De la vie, et c'est par elle, toujours par tes bontés, que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends là, la vie. Au verset 17, il dit, tu as pris plaisir, toujours bonté, plaisir, à retirer mon âme de la force du néant. Malgré le fait que le mal se répand partout dans le monde, et que le mal semble toujours triompher du bien, l'auteur du psaume 33, le verset 5, se joint avec Ézéchias pour nous enseigner que la terre est remplie de la bonté de l'Éternel. Psaume 33, le verset 5. Malgré la faillite de l'homme comme intendant de la création, frères et sœurs, Dieu est toujours bon et il continue de veiller sur sa création. Il fait lever son soleil. Et le texte dit, il fait toujours. Ah, toujours. On parlait du soleil tout à l'heure, hein. Il fait toujours lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Je vous dis, nous jouissons des bontés générales de Dieu et nous jouissons des bontés spéciales de Dieu. Et il fait toujours pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Là, pas de problème. Peu importe ce que Dieu pense, peu importe ce que Dieu fait, peu importe ce que Dieu planifie, peu importe ce que Dieu dit, peu importe ce que Dieu laisse arriver, ce que Dieu permet d'arriver, Dieu reste toujours éternellement. Pas vrai, frère et sœur? Dans les États-Unis, dans l'église, le gouvernement Dieu dit, God is good. All the time. L'autre répond, all the time. Mais c'est vrai, frères et sœurs. God is good all the time. Hein? Que ton grenier soit rempli de vivres, de nourriture. Que ton compte en banque soit garni. Qu'il soit vidé. Dieu reste bon. Que tu es en santé, que tu es en maladie, Dieu est. Que tu es en jeunesse, que tu es en vieillesse, Dieu est. Mais force est de constater, frères et sœurs, que Dieu est bon pour ses enfants d'une façon spéciale, comme je l'ai dit. Le psaume 33, le verset 12, nous le dit. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. C'est ça que je l'ai dit, oui. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Cette bonté, frères et sœurs, envers le peuple de Dieu est spéciale parce que cette bonté inclut la bénédiction et la protection. Est-ce que nous l'avons? Je répète, la spécialité de la bonté de Dieu envers son peuple s'explique par le fait que cette bonté inclut, par le fait même, la protection et la bénédiction. Dieu jette un regard sur sa création, il protège son monde, mais il bénit ses enfants. Est-ce que nous là, nous t'écoutons ça? C'est ses enfants qu'il bénit. L'autre monde qui pas petit bon Dieu, il y a un niveau de protection. Mais un niveau de protection, c'est seulement petit bon Dieu qui est capable de joindre les frères et sœurs. Le psaume 33, les versets 18 à 19, il est écrit, « Voici l'œil, ou bien le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, c'est-à-dire ses enfants, les justes, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Pourquoi? Verset 19, afin d'arracher leur âme à la mort, comme Ézéchias l'a témoigné tout à l'heure, frères et sœurs, ça va? Et de les faire vivre au milieu de la famine. Nous jouissons des bontés spéciales de Dieu. Il y a un texte, il y en a plusieurs, mais il y en a un sur lequel j'ai médité d'une façon particulière cette semaine, tandis que je préparais mon sermon d'aujourd'hui. Il y a un texte de l'Écriture, parmi un million d'autres, qui illustre très bien la bonté de Dieu envers le peuple de Dieu. Enfin, j'entendais mon père prêcher sur ce texte, que nous trouvons entre Nombre 23 et 24, l'histoire de Balaam. Nous connaissons ça? Nous connaissons ça, hein? Entre donc 22 et 24, autour. Je dis bien, oui, un texte qui vient illustrer la bonté de Dieu envers les enfants de Dieu, quand on parle de bonté spéciale. Tu vas voir quelque chose que Dieu a fait pour les enfants d'Israël, qu'il ne ferait pas pour le monde, même s'il est bon pour le monde. C'est ça que je l'ai dit. La bonté de Dieu envers ses enfants, frères et sœurs, faites en sorte que, même quand vous ne voyez pas Dieu, Dieu vous voit et Dieu est en train de travailler pour vous. Amen. Et vous ne pas même connaître si bon Dieu travaille pour vous. Parce par rapport à ce qui est dans la parole de Dieu, vous avez un niveau de connaissance que bon Dieu travaille pour vous. Mon pas ouais ou même avec yeux humains ou bon Dieu travaille pour vous. Et pourtant, parce que le bon bonté spécial envers, parce que le bon amour spécial envers, il travaille pour toi. Je prêche, tu me vois. Ta femme travaille, t'aides à la maison, vous travaillez à la maison, vous la voyez, elle vous voit. Mais quand Dieu travaille, vous ne le voyez pas. Vous croyez qu'il travaille. Vous avez un niveau de compréhension, de conviction, de foi qu'il travaille. Mais tu ne le vois pas travailler. Et il travaille. Regardez bien, frères et sœurs, dans l'histoire que j'ai mentionnée, nombre 22 à 24, cette histoire est frémissante à regarder comment Dieu s'applique à bénir et à protéger les enfants d'Israël, frères et sœurs. Il est un roi, un certain Balak. Donc, on a une histoire, on va lire avec vous, deux versets, c'est trop long. Un certain Balak. Roi de Moab. Les enfants d'Israël sortis d'Égypte campent dans les plaines de Moab. Et Balak, roi de Moab, se sentant en danger face aux enfants d'Israël, apparemment, Il disait que, c'est écrit dans le texte, hein, il disait que ce peuple, il est béni de Dieu. Ils ont mené des batailles contre des nations. Ils ont gagné les batailles. Et il fait référence en particulier aux Amoréens. Il veut, ayant pris peur, ayant crainte des enfants d'Israël, il veut les maudire. Est-ce qu'on connaît, monsieur a metté l'argent dehors, il voyait chercher un certain Balaam, un devin, un boko, pour venir maudire le peuple Israël, là, frère, c'est ça. On lit ça. Un enchanteur, si vous voulez. Balaam avait la réputation à l'époque que quiconque il maudissait était maudit et quiconque il bénissait était béni. Alors, Balak fit chercher Balaam pour venir, comme j'ai dit, maudire les enfants d'Israël, en sachant très bien, d'après lui, d'après ses calculs mathématiques, arithmétiques, que s'il maudit Israël, les batailles éventuelles qu'il aura à livrer contre Israël, il les gagnera. Est-ce que nous là, frères et sœurs, je suis en train de vous illustrer la bonté spéciale de Dieu envers son peuple, que j'ai dit qui inclut bénédiction et protection. On va sortir dans le texte. Est-ce que nous là? Frères et sœurs, vous lirez le passage chez vous, ou vous le relirez chez vous. Savez-vous que Dieu fit en sorte que Balaam, après beaucoup de tergiversations, il a accepté le contrat qui lui a été proposé par Balak et il s'est mis au travail. Savez-vous que Dieu fait en sorte que chaque fois que Balaam prononce des paroles de malédiction contre les enfants d'Israël, c'est des paroles de bénédiction qui sortaient de sa bouche. Vous voulez nous lire le texte ensemble? Nombre 22 à 24. En plus, le prédicateur là, lit le texte peut-être des millions de fois. Nombre 22 à 24. L'ivini, l'y mettait au travail. Il ne pouvait s'empêcher de bénir le peuple de Dieu parce que Dieu lui a intimé l'ordre de ne pas occuper Balak, de bénir Israël à la place, frères et sœurs. Comment cela était-il possible? Mais parce que Dieu connaît les hommes, le cœur des hommes. Alors que le peuple d'Israël est chez lui, dans son campement, à la maison, dormant, travaillant, marchant, bougeant, Dieu est en train de travailler pour lui, il ne le savait même pas. Est-ce que nous là, frères et sœurs, je comprends lorsque l'auteur du psaume 33, verset 13 à 14 dit, « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. » Lorsque Balak a conçu le projet de faire chercher Balaam, Dieu le savait. Et Dieu s'est mis au travail pour le peuple qui jouissait de sa bonté. Et parce que Israël, frères et sœurs, est sous le regard protecteur de Dieu, eh bien Dieu veille constamment sur son peuple. Et Dieu a su détecter le projet de malédiction que Balak nourrissait contre, eh bien, le peuple d'Israël. En nous gardant quelques versets seulement de ce passage. J'ai plusieurs choses à vous montrer de Ésaïe 38, mais ce n'est pas grave. Je pourrai, le cas échéant, revenir, eh bien, à ce texte. Regardez, frères et sœurs, nombre 23. Régis, ce n'est pas grave si tu n'affiches pas. Je sais que je te donne du travail. Nombre 23. Nous pouvons commencer avec le verset 5, frères et sœurs. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Ce n'est pas pour l'Éternel que le t'est venu, c'est pour Balak que le t'est venu. Est-ce qu'on en a, frères et sœurs? Et c'est l'Éternel qui a la commande maintenant ici. Il retourna vers Balak Et voici, Balak se tenait près de son holocauste, parce qu'ils avaient offert des sacrifices en ce jour-là, lui et tous les chefs de Moab, frères et sœurs. Balaam prononça son oracle, mais oracle, malédiction. Hein? Tendez-vous, frères et sœurs. N'en tête pas, lis son oracle de malédiction pour le prononcer. Mais oracle, malédiction, frères et sœurs. Balaam prononça son oracle et dit, « Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient, viens, maudis-moi Jacob, à travers ses fils, ça va frères et sœurs, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité contre l'Éternel, contre et quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du cas d'Israël, que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. » Et Balak dit à Balaam, « Sans femme là, que m'as-tu fait ?» Non, la phrase, c'est verset 11. « Que m'as-tu fait, sans femme là ?» Je t'ai pris pour maudire, me voyais chercher pour maudire un homme, mais voilà quoi béni mon Dieu. Est-ce que nous là, frères et sœurs? Bon, c'est grâce, bon Dieu, que je ne pas goûter avec l'autre, même, oui. Ah, il répondit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma... Ok. Balak dit, viens, on va ailleurs, viens donc avec moi dans un autre lieu. Peut-être que c'est en droit à sa côte au trouveau là qui fait que chaque fois où aller pour maudit Israël, c'est benou benou là, en nous changer d'espace, en allant l'autre montagne. Ça va, frère et sœur? Et je vous couplerai, je lis le verset 16 avec vous. Même bagaille arrivée, frères et sœurs. L'Éternel vint au devant de Balaam. Israël, pas qu'on est, non? Il n'est pas, ouais, bon Dieu, non? Mais bon Dieu, à l'œuvre. Est-ce que non, la frère et sœur? C'est ça, Mdoula, oui. Parce que bon Dieu remène d'un amour. Dieu a une bonté spéciale envers. Il n'y a pas bon Dieu. Ou quand on a un problème, ou pas qu'on ne s'en passe dans le ciel là, frère. Ou pas qu'on ne s'en passe dans le ciel là, sœur. L'Éternel vint au devant de Balaam. Il mit encore des paroles dans sa bouche, frère et sœur. C'est arrivé trois fois d'ailleurs, d'accord? Et il dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourne avec lui, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle, tout ougan pas coupé bas devant mon Dieu. Ça va, frère et sœur? Ça veut dire que moi-même avec vous, nous avons original là, et le monde a photocopie à nos mains. Est-ce que nous, là, frère et sœur? Nous, nous avons marché derrière dans le monde là. Si bon Dieu pas bas, il n'y a pas qu'à prendre. C'est moi-même avec qui j'ai contact direct avec bon Dieu, c'est nous-mêmes qui fait bon choix. Il retourne vers lui. Et voici Balak se tenait près de son holocauste. Avec les chefs de Moab, encore une fois, Balaam prononça son oracle, verset 18, et dit, « Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. » Quand il dit, « Il a béni, je ne le révoquerai point. » Ce n'est pas par choix, non? C'est que je ne peux pas révoquer ce qu'il a fait. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Est-ce qu'on est là? Il a béni, je ne le révoquerai point. Pas parce qu'il n'a pas le goût de le faire, non? Ça ne s'entend pas ça ici. Ça veut dire, je ne peux pas faire le contraire de ce que lui a fait car il est Dieu. Ça va? Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, etc., frères et sœurs. Encore une fois, regardez bien, verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacques. Enchantement, c'est magie, c'est incantation, ça va? C'est le soleil, le la lune contre mon qui converti. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? L'enchantement ne peut rien contre Sergo, contre Miketa, contre Jacques, contre comment tout le monde qui l'a relé? L'enchantement ne peut rien contre Nicodème, contre Maud. L'enchantement, l'incantation, la magie, relé la pluie, relé le soleil, pas qu'à faire Willem en rien. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Si c'est vrai pour Jacob, c'est vrai pour où? Ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu sur leur vie. Frères et sœurs, laissez-moi dire, Dieu est bon d'une façon spéciale pour vous. Mille fois, c'est mon Dieu dans l'église qui n'a pas de valeur. Mais bon Dieu, qu'on valeur. T'as des frères et sœurs. Et le monde qu'on valeur. Lorsque Dieu vous bénit, il n'y a aucun prophète de malheur, aucun sorcier, aucun diable racial, tant de diable générationnel. Racial, générationnel. Pas capable de pécher, mon Dieu bénir. Les bénédictions de Dieu, c'est pour ses enfants. Aucune malédiction ne peut atteindre votre maison. Aucune malédiction ne peut atteindre votre famille. Aucune malédiction ne peut atteindre votre carrière. Aucune malédiction ne peut atteindre votre retraite. Aucune malédiction ne peut atteindre votre jeunesse. Aucune malédiction ne peut atteindre vos finances. Aucune malédiction ne peut atteindre votre vie spirituelle quand Dieu décide de te bénir. Ça va? Lorsque l'ennemi alimente les mensonges contre vous, Dieu fera que les mensonges se transforment en vérité. Lorsque l'ennemi fera que des critiques soient alimentées contre vous, Dieu transformera les critiques en compliments. Ça va? Peu importe la tournure des circonstances, mon frère, peu importe la tournure des circonstances, ma sœur, restez ferme et autant que possible, arborez, affichez un sourire. Car bon Dieu, il y a qui bénit ou l'an, il bénit ou net. Frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention sur ce psaume, le psaume 121, que vous connaissez mieux que moi peut-être. Dieu ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde, autrement dit, celui sous le regard duquel tu te retrouves, c'est ça, ça veut dire oui. Celui qui te garde, s'il te garde, ça veut dire tu es sous son regard, ça va? Celui qui te garde ne sommeillera point. Même si moi avant, tu as une difficulté pour nous croire que bon Dieu pas jamais dormi, il est là veiller petit lit, histoire nous saute garder là, montrer nous qu'il pas jamais dormi. On n'a pas vu Israël aller chercher Dieu. C'est Dieu qui a vu ce qui se passait et il s'est porté à la défense de ses enfants, ça va? C'est parce que il ne sommeille jamais. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde. Laissez-moi vous dire. Famille ou sujet, bon Dieu. Croyez-moi, malgré tout ce qu'a ouais, malgré tout problème, santé ou non, mais bon Dieu. Santé ou sous Dieu, bon Dieu. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Attendez, oui. Ton départ et ton arrivée. Ou alors, ça veut dire, oui. Dès maintenant et à jamais. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire tant dans ce monde que dans l'éternité, on est toujours sous le regard de Dieu. En passant par l'heure où on a trépassé sous le lit d'hôpital, en passant par l'heure où on a dans le tombeau, les tout on a dit au revoir, bon courage, ami. Et puis Jésus lui-même l'a gardé. Amen. C'est ça, ça veut dire, oui. Ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. C'est pas seulement là, non, côté m'a parlé, non, comme si m'a dit, depuis, j'ai fait, mais tout est terminé. Non, non. Et tu vas être toujours sous le regard de Dieu éternellement. Il est midi et demi. Il faut aller déneiger. Il reste quatre autres choses à découvrir dans ce texte qui se passe quand on est sous le regard de Dieu. Au lieu de les voir en rafale, vite, et bah, le monde commence à me garder ma regard là, on va s'arrêter là, frères et sœurs. Ça va? On y reviendra ensemble dans un dimanche subséquent pour regarder les autres choses qui se passent quand on est sous le regard de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous et que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen.